All right. Mardi, le 20 octobre 2020. Prenez le temps de vous connecter, partagez en grand nombre. On est en onde dans quelques instants. Gênez-vous pas, joignez-vous à nous, installez-vous confortablement, préparez vos questions. Le show débute dans quelques instants. Quelle superbe soirée pour écouter un podcast live. Eh oui, nous sommes live, je vais arrêter ça ici pour que vous puissiez me voir la face, n'est-ce pas? Hey, coucou tout le monde, on est live, bienvenue à En Zone Neutre, mon podcast live sur Facebook et YouTube. Si vous nous écoutez sur Facebook, sur YouTube, laissez un commentaire, je veux vous entendre, je veux savoir qu'est-ce que vous faites. Je veux que vous posiez des questions à nos invités. Je veux que vous participiez dans ce show-là. Donc, ce soir, encore un gros show. Vraiment content de recevoir mes invités. Tout d'abord, je vais recevoir le député de la circonscription Argenteuil et la Petite Nation, député fédéral du Parti libéral, M. Stéphane Lauzon, qui va être avec nous dans quelques instants. Par la suite, je vais recevoir Sébastien Trudel, animateur de Ça rentre au poste sur les ondes de Énergie à travers le Québec. Sébastien qui a écrit un livre qui a publié récemment sur le côté, disons, obscur, mais disons, le côté de la radio des années 70, 80, 90 au Québec, les débordements, les parties, tout ça. Il a recueilli des anecdotes de certains animateurs, donc ça va être super intéressant de l'entendre nous parler de ça, puis de plein d'autres choses de sa carrière en général. Et on va terminer le show avec Martin Vachon, qui est un humoriste et comédien aussi, que vous pouvez voir présentement tous les vendredis avec La Guerre des Clowns, son quiz sur sa page Facebook. Mais aussi, il fait des chroniques à Salut Bonjour, donc on va y jaser de tout ça. Fait que bien content d'avoir mes trois invités ce soir. Je me trouve encore dans les bureaux de construction Miric, une entreprise de Saint-André-Avelin, des amis à moi qui me font l'honneur de me prêter un bureau, un local pour que je puisse diffuser mon podcast. Donc chez nous, j'ai pas d'aménagement pour ça. Donc ils sont vraiment gentils de me prêter leur studio. C'est un bureau, mais moi ça me fait un studio. Donc vraiment content. On va donner le temps à la gang aussi de District 31. Là, toute la gang qui écoute District 31, on va leur donner le temps de se connecter. 19h36, ça fait 6 minutes que c'est terminé. Venez nous rejoindre, là, puis comptez-moi pas qu'est-ce qui se passe. Je vais l'écouter demain, OK? Fait que je veux pas le savoir. Mais joignez-vous à nous, c'est certain. On veut vous voir. Ce soir, en même temps, un petit peu plus tard ce soir, c'est le début de la série mondiale de baseball. Donc, vous savez que je suis un grand fan de baseball. Je vais suivre ça attentivement. J'ai un petit problème avec le terme série mondiale, alors qu'il y a 29 équipes aux États-Unis et une seule au Canada. Donc, c'est plus la série locale de baseball qu'on va suivre, à partir de ce soir même. Je suis un grand fan de baseball. Je ne sais pas, vous autres, vous êtes du côté de quelle équipe? Est-ce que vous êtes du côté des Dodgers ou vous êtes du côté des futurs Expos? Hein, les Rays de Tampa Bay, qui pourraient se retrouver à Montréal dans les prochaines années peut-être. Donc, est-ce que vous encouragez les Rays ou vous encouragez les Dodgers? Je veux savoir, laissez-moi des commentaires. C'est vraiment interactif, ce show-là. Je ne sais pas si vous avez aimé le petit intro avec la musique. C'est nouveau, j'essayais ça, un background avec la musique. J'ai un ami qui est en train de me créer une chanson particulièrement pour le show. Donc, ça va rocker pas mal plus que la toune que vous avez entendue tantôt. Tantôt, c'était plus du dance et du dance ou de l'électro plutôt. Ça va rocker pas mal plus la semaine prochaine quand je vais avoir la chanson. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Je vous dis pas c'est qui me prépare ça, mais c'est un gars qui est très impliqué dans la musique dans la Petite Nation en Outaouais, au Québec. Musique punk rock. Donc, C'est le seul indice que je vous donne. Mais je peux vous dire que ça va déménager en tabarouette. C'est ça. Ce soir, partagez, hein. N'hésitez pas. Partagez ça en grand nombre. Je vois qu'il y a déjà 17 personnes là, qui nous suivent sur Facebook. Sur YouTube, ça se connecte toujours un petit peu plus tard. Donc, on est sur YouTube, on est sur Facebook, sur la page Facebook en zone neutre et aussi sur ma page Facebook d'humoriste. Donc, gênez-vous pas, venez nous rejoindre. Et puis, j'ai bien hâte de vous voir vous connecter. Bon, sans plus tarder, on va vous présenter parce que j'ai changé un petit peu la formule. Hein. J'ai changé la formule du show. Au début, c'était live au chalet. Mon show cet été était plus, tu sais, on recevait trois humoristes ou des invités en même temps. On jasait tout le monde ensemble. J'ai modifié ça un petit peu pour avoir une formule d'entrevue one-on-one. Vous me direz si vous aimez ça. Des fois, on va mixer des gens, on va amener du monde en même temps là, sur les entrevues et tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, là, j'essaye cette formule-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Gênez-vous pas. Moi, je lis vos commentaires puis je vais ajuster le show en fonction de ce que vous aimez. Donc, ce soir, j'avais commencé ça à live au chalet. Je poursuis ça. Je vais poursuivre ça dans les prochaines semaines aussi, grâce à mes amis du Brass Camarade, je sais pas comment l'appeler, c'est un magasin de bière, mais en tout cas plus, le Brass Camarade à Saint-André-Avelin. Et j'arrête là toujours avant les podcasts, donc avant chaque podcast, j'arrête et ils vont me suggérer une bière. Donc moi, ce soir, je voulais boire la Poche Bleue, qui est la bière des amis Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, qui a été brassée spécialement pour leur show, leur podcast, qui est présenté les mercredis soirs à 19h30 aussi, mais seulement sur YouTube. Donc je voulais goûter à leur bière. Il en restait plus, donc victime de leur propre succès. Donc, Frédéric, moi, j'aime la bière blanche. Donc, Frédéric m'a suggéré une bière qui s'appelle la Hochelag. Donc, je vous la présente ici. C'est une bière blanche qui s'appelle la Hochelag. Et puis, vous pouvez lire sur la canette, miette, c'est parce que cette bière-là est faite à base de blé, bien sûr. Les bières blanches sont à base de blé. Je sais ça, moi, depuis très longtemps, c'est-à-dire quand j'ai arrêté au Brass Camarade tantôt puis que Fred m'a expliqué ça. Donc, c'est une bière au pain qui est faite avec des miettes de pain. Donc, on récupère le pain, les miettes de pain, et puis ils brassent cette bière-là avec des miettes de pain. Donc, quand tu es né pour un petit pain, ben tu bois de la bière Hochelag. Donc, santé à tout le monde. Je vais y goûter, puis je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Elle est succulente, elle goûte la bière. Et contrairement à la première bière que j'ai bu du Brass Camarade, où est-ce que je voulais absolument avoir une bière blanche, une bière de la région, tout ça, on m'avait suggéré l'Ange de la Rivière de la brasserie des Brasseurs de Montebello, puis c'est une bière excellente. Mais il restait juste une bière chaude sur la tablette. Donc, ce soir-là, j'ai bu de la bière chaude. Là, elle sort du frigo, elle est froide, puis tout ça. Donc, vraiment content. Vraiment content de la boire. Hey, sans plus tarder, je vous présente mon premier invité. Il est, comme j'ai dit tout à l'heure, il est député d'Argenteuil, la Petite Nation, député fédéral du Parti libéral. Donc, c'est M. Stéphane Lauzon. Je l'amène tout de suite avec moi. Salut Stéphane, comment ça va?
Hey, bonsoir Simon. Bonsoir, merci pour l'invitation.
Ah ben ça me fait plaisir. Écoute, j'avais reçu Mathieu Lacombe qui est ministre de la Famille ou du côté du Québec, puis on avait vu des bonnes réactions. Les gens aiment ça, voir le côté plus personnel, par exemple, des politiciens, tu sais. Puis une anecdote, quand on a reçu Mathieu, c'était en plein été, il était sur son perron, et puis pendant qu'on y parlait, les sprinklers pour arroser son gazon ont parti. Puis
non.
L'arroser sur son patio.
Fait que, moi, je me suis permis juste d'enlever mon manteau et la cravate en revenant d'Ottawa mettre un peu plus à l'aise.
C'est bon. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous pouvez battre ça ce soir, mais en tout cas, la balle est dans votre camp. Je vais vous présenter comme il se doit, M. Lauzon, puis je veux vous remercier d'être là. Si vous avez des questions pour M. Lauzon, gênez-vous pas, envoyez vos questions dans les commentaires Facebook ou YouTube. On va en prendre tout au long de l'entrevue, puis on va pouvoir répondre aux questions des gens. Je sais que vous êtes quelqu'un qui aime les gens, donc j'ai pas peur que vous allez pouvoir répondre à pas mal toutes les questions.
Voilà.
Ouais, vous êtes enseignant de formation, vous êtes un enseignant de formation professionnelle, donc vous avez fait ça pendant 20 ans, si je ne me trompe pas.
Oui, moi, je suis un soudeur. À la base, je suis un soudeur de métier.
OK.
Et j'ai décidé d'aller un peu plus loin avec. J'ai fait une dizaine d'années là, dans les moulins à papier, dans les plants de congénération. Puis par la suite, ben, j'ai fait un retour à l'école à l'âge de 30 ans. pour aller chercher un certificat en enseignement où je suis devenu un enseignant en formation professionnelle. Et depuis ce temps-là, j'ai continué en administration où j'ai eu ma propre entreprise. Mais j'ai toujours resté dans le domaine de l'éducation au privé, en formation professionnelle, puis au service aussi aux entreprises.
Un fait qui est vraiment intéressant que j'ai vu, vous avez été élu premièrement pour la première fois le 19 octobre 2015, donc j'ai fait mes recherches, après avoir été conseiller municipal de la ville de Gatineau là, de 2009 à 2015. Si Wikipédia ne se trompe pas, c'est
exact.
Non,
c'est bon.
Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous êtes le premier député de la circonscription Argenteuil-Petite Nation, puisque c'est une circonscription qui a été créée lors d'élections en 2015.
C'était créé, ça a créé une belle région. Ça a créé une belle circonscription de plusieurs municipalités. C'est un grand territoire, et puis juste dans les MRC où vous êtes, il y a 26 municipalités, puis j'en ai autant dans l'autre. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de faire de la route. Je suis quelqu'un qui va vers les gens. Voyager pour moi, c'est pas un problème.
Écoutez, ça, c'est un fait intéressant. Comme vous savez, je suis humoriste, fait que moi, je sors les côtés les plus comiques de chaque situation. Donc, techniquement, vous n'avez pas eu de prédécesseur. Si jamais vous êtes réélu encore, puis encore, puis encore, vous pourriez être le seul député de cette circonscription-là. Donc, bonne chance dans vos projets. Ouais. Je vous le souhaite.
On ne sait jamais. Mais vous avez été... à un moment donné, l'âge va me rattraper.
Mais mettons qu'ils font des changements de circonscription, là, puis que cette circonscription-là n'existe plus après votre mandat.
Je vais avoir été le seul.
Le seul, exactement.
Le seul. On passe toujours à l'histoire. Tu sais, de chacune de nos façons, moi, je pourrais passer à l'histoire de cette façon-là.
Vous avez été réélu en 2019, M. Lauzon. C'est quoi que vous pouvez dire, par exemple, à propos de votre circonscription qui fait que c'est la plus belle circonscription?
Écoutez, on a une richesse naturelle. Hein? On a des lacs, on a du territoire, on a des forêts. C'est le tourisme qui nous fait vivre, dans le fond. On a de l'industrie papetière. C'est une belle diversité. On a des micro-entreprises, on a des entreprises d'une personne. Prenez l'exemple où vous êtes, le Miric, là. C'est le mari et la femme avec un petit groupe d'employés qui travaillent d'arrache-pied à partir de Saint-André-Avelin, qui ont réalisé des projets au centre Canuck. On suit ça. Là. Moi, je suis ça de près, là. Et puis, c'est évidemment que moi, pendant le COVID, je trouve ça extrêmement difficile de ne pas pouvoir partir et puis aller rencontrer les projets que les petites entreprises locales ont réalisé. Mais en fait, c'est tout ça. Là. C'est tout ce qui était la disparité là, qu'on a entre les petits commerçants, les grosses usines, le marché du bois et la petite et moyenne entreprise.
Diriez-vous que, justement, c'est ce qui vous manque le plus, le contact one-on-one ou directement sur place avec ces gens-là dans votre situation?
Évidemment, Simon, les gens me connaissent parce que je suis quelqu'un de proximité. Je suis quelqu'un qui va vers les gens. J'aime participer. À tous les fins de semaine, j'avais 5, 6, 7 activités pendant les fins de semaine. Tu sais, je suis allé partout. Festival d'humour à Tursault. Je suis allé presque à tous les soirs.
Écoutez, M. Lauzon, c'est magique que vous disiez ça parce que j'ai un extrait vidéo à vous présenter. Je vais vous le présenter tout de suite. Puis j'invite les gens à être très, très attentifs sur... On vous entend dans la vidéo et je tiens à ce que les gens soient super attentifs à ce que vous dites. Donc, je vous présente ça, ça ne sera pas tellement long. Ce n'est pas arrangé, hein, M. Lauzon?
Ah, c'est bon. J'aime les surprises.
Je vais regarder. Oui, c'est le bon en plus. Donc, soyez attentifs, écoutez. On voit M. Lauzon à une table ici.
Bonjour. M. Lauzon, vous êtes content du spectacle? Yes, bonne soirée, amusez-vous bien.
Il y a un humoriste
que
je ne connais pas.
Ah, yeah! C'est pas un petit gars de Ripon, mais c'est un gars de
Ripon. Ah, j'ai dit, on est fiers de toi, un petit gars de Ripon.
Et voilà. Donc,
quand on parle à quelqu'un de Ripon, on ne dit pas quelqu'un qui vient de Ripon, hein?
Exactement.
Hein, je ne me trompe
c'est...
pas, là.
Non, c'est
moi, petit Ripon. Moi, je parle à mon petit gars de Ripon.
Exactement, c'est exactement ça. Et dans la vidéo, je l'ai gardé, je me souvenais, donc je suis allé le chercher. Ça date quand même de plus d'un an, là, cette vidéo-là.
Je suis vraiment touché par ça, je ne me souviens même pas. Je me souviens d'être là, mais je ne me souviens pas d'avoir parlé.
Ouais.
Je me souviens de t'avoir vu. Je t'ai même vu en coulisses. Mais je pensais pas que je t'avais adressé un message directement.
Oui, mais c'est ça. Donc, je suis vraiment content que vous me disiez ça à ce moment-là parce que j'allais monter sur scène. J'ai monté sur scène ou j'allais monter sur scène le lendemain?
Oui, je pense que tu montais le lendemain, mais je suis allé aussi le lendemain.
Oui, le lendemain, j'ai vécu quelque chose de magique. Donc, je suis content que vous étiez là.
Écoute, tu as levé la foule.
Ça a été un beau moment.
Presque autant que les grands noms qu'on avait là la veille.
Oui, non, j'étais vraiment content, mais c'est ça. Donc, vous l'avez dit sur vidéo, moi, je l'ai à tout jamais dans mes affaires. Vous êtes fiers de moi, donc il me reste à garder ça.
Bien, moi, chacune des personnes locales, tu sais, que ce soit un athlète ou que ce soit un humoriste ou que ce soit un musicien ou quelqu'un qui passe à la voix, bien, tu sais, je suis un fan de toutes vous autres. Dans le fond, vous êtes... vous m'épatez pour ce que vous faites parce que vous vous démarquez. Puis pour moi, là, ben, vous appelle mes ambassadeurs de ma circonscription.
Puis
quand j'ai la chance, je me lève en chambre, puis je fais mon petit discours, puis je parle de mes ambassadeurs, ceux qui ont une fierté de ma circonscription. Puis ça, ben, il faut que ça continue. Il faut encourager les jeunes à performer dans tout ce qu'ils veulent faire. Il faut aller jusqu'au bout de nos rêves.
C'est un beau message. Monsieur Lauzon, on a des questions déjà du public, du monde qui nous regarde. Donc, je vous en pose une de Timmy Jutra. On la voit à l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est quoi vos priorités pour votre deuxième mandat?
Ben, je pense que mes priorités, vous savez, avec ce qu'on a vécu, la pandémie, écoutez, il va falloir relancer l'économie. Relancer l'économie, garantir les emplois, supporter les travailleurs qui ont perdu leur emploi, créer de la richesse. Il va falloir continuer le travail qu'on a commencé. Je sais qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Je sais qu'il va falloir le rembourser puis d'être là, mais il va falloir aussi investir davantage pour qu'on puisse relancer l'économie tout en livrant l'Internet le plus rapidement possible.
Mm-hmm. Ben justement, on a une deuxième question qui est en lien avec Internet. Donc, Internet haute vitesse, quels sont vos projets pour inciter les fournisseurs en zone rurale à court terme? Je sais que je voulais pas aller trop dans les questions politiques, mais je pense que les gens aiment ça, poser ce genre de questions.
Oui, bien, Mélanie, c'est une excellente question. Tout est en place. Les équipes sont en place. Les achats sont faits. Les estimations sont faites. Puis, je vais être bien honnête avec vous. C'est avec Bell qu'on a de la misère. C'est avec Bell, on négocie pour l'accessibilité au poteau en ce moment. Puis Bell nous met des bâtons dans les roues, mais on travaille là-dessus. Là. Écoute, le bureau du premier ministre est en contact avec Bell et le premier ministre Legault a rencontré Bell pas plus loin qu'hier pour prendre des ententes, pour déployer, parce que presque tout est en place. Est-ce on va avoir 90% du territoire de connecter haute vitesse, abordable, si Ben nous laisse passer dans un très court délai.
Mm-hmm. Est-ce que vous suivez de près le dossier, par exemple, dans la MRC Papineau, ou est-ce que la MRC comme telle, avec Internet Papineau, ont dépensé beaucoup, ont vraiment, je pense qu'ils sont tout prêts, là, dans les prochains mois, ça va venir, là, mais la haute vitesse s'en vient dans la région de la Petite Nation, je pense que c'est positif.
Exact, je suis ça à la lettre. On se parle régulièrement avec le préfet, avec l'équipe. Je suis allé rencontrer les maires au Conseil des maires aussi. C'était le sujet de la discussion au Conseil des maires. C'était toujours un sujet à l'heure du jour. Il y a eu une bonne mise à jour pendant le Conseil des maires. Et puis, j'étais présent sur les lieux pour écouter la mise à jour. Et je peux vous dire que l'avenir est très rapproché pour Internet si Bell nous donne le champ libre.
Mm-hmm. Je comprends ça. Est-ce que je vais revenir du côté de votre côté plus personnel un peu. Qu'est-ce qui vous a attiré en politique? Je sais que vous étiez en politique municipale, mais qu'est-ce qui vous a fait faire le saut en politique fédérale comme ça?
Bien, j'ai toujours été impliqué dans la communauté. Tu sais, c'est pas d'aujourd'hui que j'ai une proximité avec les gens. J'ai été arbitre au baseball, j'ai été arbitre au hockey, j'ai quatre licences d'entraîneur. Hein. J'ai entraîné dans plusieurs sports, dans les programmes études à l'école. J'ai toujours été proche des groupes. Puis à chaque fois qu'on négociait un plateau, j'allais à la ville de Gatineau, que ce soit l'urbaniste pour mes projets ou que ce soit pour les sports et les loisirs, ça ne marchait pas. À Gatineau, ça ne marchait pas. C'est, il y avait la culture du non dans le front. C'était marqué non dans le front de tout le monde. Puis là, quand j'arrivais là, là j'ai quel nom qu'ils vont me dire? Puis là, ben, j'allais me battre dossier par dossier pour faire avancer mes dossiers. Puis je me suis dit un jour, si je veux changer les choses, ben, je vais arrêter de chialer puis je vais me présenter. Puis c'est ce que j'ai fait. Ben, j'empêche pas le monde de chialer. Là.
Fait que vous avez attaqué le problème de l'intérieur, c'est ça?
De l'intérieur, je suis devenu rapidement. J'ai des belles réalisations à la ville de Gatineau. J'ai été rapidement président des sports et des loisirs de la ville de Gatineau. On a bâti le centre sportif. On a amené la première équipe nationale de volleyball masculin qui sont encore là aujourd'hui.
Ben oui.
On est allé chercher le championnat national de plongeon Gillette qui est à Montréal. Je l'ai volé de Coderre. Le maire Coderre, il est en rénovation pour 2 ans. J'ai misé là-dessus. On l'a amené à Gatineau et puis il n'est jamais retourné à Montréal. La compétition a toujours resté à Gatineau parce qu'on les a bien servis. Il y a toutes sortes de belles réalisations comme ça. Je suis devenu aussi le président de la sécurité publique. On est la première ville, projet pilote, qui a installé les photoradars municipaux dans les rues. Ça, j'ai pas été populaire.
Non, ben j'imagine, mais ça m'étonne même que vous en parliez, mais c'est bon.
Oh non, c'est une fierté.
Ben, c'est dans le fond,
c'est pour sauver nos enfants.
C'est ça, si on met du côté l'aspect que ça coûte cher l'étiquette, ça reste quelque chose que pour la sécurité, effectivement.
Ouais, on n'en parle plus aujourd'hui parce qu'il y en a partout. Là.
Non, c'est
là,
ça.
Il y en a partout. Mais le projet pilote, c'est moi qui l'ai apporté à Gatineau à ce temps-là.
Super intéressant. Vous avez été impliqué dans le sport à Gatineau, donc de là, où ce soir, la Série mondiale de baseball qui commence. Votre prédiction, c'est
Floride.
Quoi?
Floride, Tampa Bay, écoute, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes du Québec qui vont être très attentifs. Vous savez que le club là-bas, c'est Tampa Bay. Moi, chaque année, je me permets d'aller voir avant le COVID. On va en Floride, puis on va voir 2 parties de hockey entre Noël et Jour de l'An. Tampa Bay, Floride. Moi aussi, j'étais un amateur de sport. Et puis, si on a l'espérance d'avoir une expo de Montréal qui va revenir, bien, ça va être possiblement la franchise de Tampa Bay.
Est-ce que vous y croyez à moyen terme, le retour du baseball?
On peut passer à une autre question.
Ah ouais? OK. Donc vous le voulez, mais vous n'êtes pas tant positif à ça.
Non. Malheureusement, je connais ça. J'ai été secrétaire parlementaire pour les sports au Canada. J'ai toujours été secrétaire parlementaire au fédéral. Et j'ai été proche des grands joueurs de ce monde. Marcel Aubut, Gary Bettman, j'ai eu la chance de discuter avec eux.
2 gars super populaires au Québec.
et je peux vous dire que on a pas beaucoup d'ouverture pour une équipe de hockey à Québec qu'une équipe de baseball à Montréal.
Si vous aviez à parier sur un des deux, par exemple, ce serait le baseball ou le retour du hockey à Québec?
Baseball.
OK.
Plus de chance au baseball que le hockey. Le hockey, on s'éloigne de plus en plus. Mais le stade olympique, il n'est pas aux normes pour du nouveau baseball. Ça prendrait carrément un autre stade comme à New York ou ailleurs. Il faut que les gens soient conscients de ça. C'est des investissements là, de plusieurs centaines de millions.
Êtes-vous plus pro stade avec toit rétractable ou au stade sans toit directement?
Sans toit directement.
Le vrai baseball. Toit.
Le vrai baseball, le parc Jarry modernisé. Bon vieux parc Jarry modernisé, puis il fait froid, s'habille, puis comme le football.
Exact. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, vous touchez vraiment un bon point. Le football, c'est ça. Moi, je suis allé voir des games, j'avais des billets de saison aux Red Blacks à Ottawa. Et je veux dire, qu'ils fassent beau ou mauvais, ça n'a aucune importance. Là, ça joue, donc techniquement, ils sont capables de le faire au baseball aussi.
Ben, écoute, le baseball, la différence, c'est qu'il y a un contact plus stratégique avec le bâton. Les bâtons qu'on a d'aujourd'hui avec la différence de température, ça peut jouer. Plus qu'il fait froid, plus que de circuit. Mais ça, c'est égal pour les deux équipes.
Oui, exactement. Exactement. Hey, on a des commentaires, M. Lauzon. Oui, donc, oui. Jonathan Dupont qui dit félicitations et merci de votre implication. Donc,
salut, Jonathan. Salut, Jonathan. Merci pour les beaux commentaires.
Puis je pense qu'il y a d'autres commentaires aussi. Vous allez pouvoir les lire, si vous voulez, là, à la suite du podcast. Ils vont rester sur la vidéo de toute manière. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça.
Je m'ennuie tellement de faire des activités. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je suis à Saint-André-Avelin, au Centre Wessel. Il y a tellement d'activités là. Puis là, c'est tellement triste. Là. Mm-hmm. On passe en avant, là. C'est fermé, il n'y a rien qui se passe là. Les loisirs, les bibliothèques, c'est vraiment désolant. Imaginez-vous comment, si moi je me sens isolé comme député, puis j'ai voyagé à travers la province quand même pour des obligations, ça reste que, imagine, là, tout le monde qui sont isolés, qui ont l'habitude d'avoir leur seule sortie, qui est leur souper là, des chevaliers de colonne.
Mm-hmm. Oui, exactement. Non, c'est certain. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres ce soir, M. Lauzon. On va continuer de suivre vos projets. Je pense que...
Oui. J'ai un beau projet avec ma fille. Un beau gros projet avec ma fille. On vient d'acheter un autobus qu'on va modifier en camper. Modifier ça. On coupe le toit. On lève le toit de 20 pouces. On finit l'intérieur. C'est un projet. Ma fille est avec moi dans mon atelier de bricolage à faire toutes sortes de choses. Puis là, elle va apprendre tous les métiers. Elle va apprendre la plomberie, l'électricité, chauffage. Puis on va tout faire. On va s'amuser là-dedans. Puis je commence ce projet-là très bientôt à ma maison à Plaisance.
Beau projet. Oui, vous êtes encore résident de la Petite Nation. Est-ce que vous êtes né dans la Petite Nation?
Mes racines sont Notre-Dame-de-la-Paix. J'ai été élevé à Gatineau.
Okay.
Et là, j'ai aménagé au cœur de ma circonscription. Je suis à la même distance entre mon bureau de la Chute, mon bureau de Buckingham. Puis quand je vais à Ottawa, comme aujourd'hui, j'ai été à Ottawa, avec le trafic ce matin, ça prend 1h05 à peu près.
Non, c'est ça. C'est pas tant loin. Moi aussi, j'habite encore à Ripon. Puis là, je suis confiné, c'est sûr, à la maison. On travaille à la maison. Ça. Mais quand je voyage à Hull. Puis ça se fait très bien avec la nouvelle autoroute. Puis tout ça. Là, donc, merci d'avoir été là, M. Lauzon.
On
prend ça,
Simon, n'importe quand. On a beaucoup de choses à se dire. C'est la suite. Puis toi aussi, on t'admire. Puis mon ambassadeur, lâche pas ton podcast. Puis merci de faire ça pour la population.
Merci, c'est super apprécié. Passez une belle soirée. Bye-bye.
Merci. Bye-bye tout le monde.
C'était M. Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil, Petite Nation, ma circonscription, l'endroit où je vis. Oui, monsieur. Oui, madame. Gênez-vous pas d'envoyer vos commentaires, partagez l'événement ici, le podcast. Je pense que nos deux autres invités vont être super intéressants aussi. D'ailleurs, notre prochain invité est déjà arrivé, donc sans plus tarder, je le joins à la conversation ici. Sébastien Trudel, salut, comment ça va?
Salut, Simon. Très bien, toi?
Là, je suis nerveux parce que un vrai gars de radio qui va m'écouter puis tout ça, ça me met de la pression un peu. Faut que je sorte ma grosse voix, je pense.
Ben non, écoute, regarde ma voix, il n'y a pas de stress du tout. Là.
Hey, là, je suis content que tu sois devant ton sapin de Noël parce que j'ai justement sorti la photo, puis tu vas pouvoir nous expliquer. Ça, c'est la photo avec toi puis ta copine. Vous avez fait votre sapin, mais là, c'est un running gag ou plutôt quelque chose que vous avez réalisé avec ton équipe de Ça rentre au poste à Énergie. Maxime Martin qui a fait son sapin de Noël. Là, toute la gang va l'avoir fait, c'est ça?
Écoute, Max, c'est un gars qui trippe. Il n'a pas l'air de ça, mais il devient un gamin quand on parle de Noël. Et puis, et là, avec tout ce qu'on vit, confinement, tout ça, lui, il s'est dit, moi, je fais mon sapin la semaine passée. Il l'a fait et il n'y a pas de décoration encore. Ça, on garde ça pour décembre, mais on s'est dit, tu sais, pourquoi pas célébrer l'Halloween, Noël en même temps? Les enfants vont être contents. Ils savent que ça s'en vient. Fait que écoute, on a parti un genre Max a parti un genre de mouvement, puis moi, étant influençable, j'ai fait, regarde, pourquoi pas? Et avec un peu de pression de ma blonde, faut l'avouer.
Ah, je t'avoue que j'ai quasiment le goût de faire le mien, là, tu sais. Fait que vous m'influencez, moi aussi, là. Fait que j'ai bien hâte de voir si ma blonde va être d'accord avec ça, mais en tout cas, on verra. Sébastien, t'as écrit un livre qui fait beaucoup jaser, je pense, présentement au Québec, puis moi, ça m'intéresse tellement, là, ce livre-là. C'est clair que je me le procure. Je n'ai pas eu l'occasion de le commander encore pour le lire, mais j'ai lu beaucoup de passages qui ont été présentés dans les médias, tout ça. Ça s'appelle « À micro fermé ». Je vais le présenter ici. C'est aux éditions de l'Homme. Donc, ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller sur le site des éditions de l'Homme. « À micro fermé », donc, qui est un livre qui raconte des anecdotes qui t'ont été racontées, dans le fond, par plusieurs intervenants de la radio des années 70, 80, 90. Parle-nous-en un petit peu.
Écoute, l'idée m'est venue, en fait, c'est que j'ai été témoin d'une conversation. On avait des parties de sondage à la radio. Et j'étais avec Michel W. Duguay, qui est une légende à l'époque qui a commencé à C'est quoi, et Guy Aubry, qui est un gars vraiment d'énergie CKMF. C'est les deux plus grosses voix que tu as entendues de ta vie.
W. Duguay, c'est un.
Et puis Guy Aubry, c'est vraiment un ton de garder le fil. En tout cas, bref, ça pour dire qu'il se racontait des histoires, un à l'autre. Moi, j'étais assis entre les deux, puis là, j'étais comme, OK. Moi, je pensais que c'était des légendes urbaines, beaucoup, ces histoires de radio des années 80, d'animateurs qui étaient littéralement payés en drogue par leur patron. Là, tu sais, c'était carrément ça. T'as eu des bons sondages, mais il y avait un budget dans le... un budget discrétionnaire du directeur des programmes pour acheter de la cocaïne carrément aux animateurs, tu sais, pour les remercier, pas seulement les réveiller, les motiver, je sais pas trop clair. Et puis, écoute, à force de les écouter les deux, je me suis dit, écoute, il faut pas que ces souvenirs-là disparaissent. Ils vont pas nécessairement écrire de biographie, mais il faut garder ça pour l'anthologie, dans le fond, c'est l'histoire de la radio FM. Alors, c'est vraiment parti de là. Puis là, j'ai parlé à plein de monde. Puis écoute, c'est assez fascinant, je te dirais.
Il y a des faits qui sont rapportés. Là, si je regarde, j'ai lu l'article du Journal de Montréal qui était présenté jeudi dernier, où est-ce qu'on parle de paiements de 3 000 à 4 000 piastres cash par semaine, en plus d'un salaire, par exemple, de 150 000 piastres à la radio là, par année pour Michel W. Duguay. C'est fou, là. C'est quoi la plus grosse affaire que tu as entendue côté monétaire, mettons?
C'est un animateur. En fait, il y a juste un animateur qui m'a demandé de garder ça anonyme. Et c'est parce qu'il y avait peur au niveau des impôts, Revenu Québec qui pourrait éventuellement revenir, mais finalement, on a vérifié. Puis Revenu Québec, après 25 ans, peuvent pas revenir contre toi. Fait que là, ça a été réglé. Mais il me disait qu'il recevait tellement d'argent en cash qu'il cachait ça en dessous de son matelas, dans ses murs de maison. Là, on dirait que je parle à Pablo Escobar. C'était carrément ça. C'était tellement une autre époque. Puis c'était hallucinant comme anecdote. Fait que, mais c'est qu'en fait, les bars dépendaient vraiment des animateurs de radio. Les stars, c'était les gens de la radio. Fait que si tu pluguais le bar, je vais être là ce soir, et il y avait 3000 personnes dans le bar. Fait que les animateurs, ils rentraient, ils sortaient, merci, bonsoir, puis ils recevaient leur enveloppe de cash.
C'est fou. Est-ce que tu as des chiffres déjà pour les ventes du livre? Parce que je pense que, pour vrai, j'en entends parler partout de ton livre. Donc, d'après moi, il y a une belle effervescence. Là, as-tu déjà des chiffres au niveau des ventes?
Écoute, pour les livres, ça a l'air assez compliqué. Ça prend beaucoup de temps, mais ce que je sais, c'est que c'est numéro un sur différentes plateformes déjà. Fait que, écoute, je suis bien content. Moi, ça a été quand même pas mal plus de job que je pensais au départ. Je me suis dit, moi j'avais une idée, j'étais allé voir les éditions de l'Homme, j'ai dit, regarde, j'ai présenté trois anecdotes, puis finalement ils sont arrivés avec un contrat, puis on fait le livre. Je suis parfait, OK. Dans combien de temps? Là, ils m'ont dit, ben t'as comme 6 mois pour l'écrire. Ça, 6 mois, ça va être pas pire. Finalement, 6 mois, ça passe vite, et de rencontrer tout le monde, de prendre les meilleurs trucs, et puis là, il y a eu. Attends, je pense que les gens n'ont pas beaucoup... Mais une pandémie, oui, c'est ça le terme, une pandémie. Fait quand même, on m'a dit, il te reste une semaine, il faut que tu remettes le livre. Je fais, OK, il manque quoi? Ah, il manque comme 25 000 mots. Fait que j'ai passé une semaine à peu dormir, mais je suis content du résultat. Ouais.
Mais tu sais, il y a des faits à vérifier. Je veux dire, tu peux pas juste dire, je vais raconter ce qui m'est arrivé, tu sais, ce qui t'est compté une fois. Faut que tu le vérifies, puis tu le vérifies. Tu sais, à moins que ce soit le propre intéressé, la personne qui te le raconte, là, c'est une autre histoire. Mais tu sais, si ça implique d'autres mondes, faut que tu vérifies quand même des faits, puis ça prend du temps à faire ça.
Oui, et puis écoute, mais en fait, c'est que c'est vraiment de leur bouche, là. Fait que c'est un livre, tu peux le lire à l'envers, c'est par animateur. Fait que c'est vraiment une anecdote de Normand Brathwaite, une de François Pérusse, et c'est vraiment la transcription intégrale de ce qu'ils m'ont raconté, parce que moi, c'est ce que je voulais, je voulais pas qu'il y ait de censure, parce que je savais que c'était une période quand même assez élevée, puis quand même assez spéciale. Et puis, écoute, ça a été parfait parce que j'ai été appuyé là-dedans. Puis, tu sais, il n'y a rien à vérifier au sens que ça vient de leur bouche.
Ça vient d'eux, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. OK, ben, super cool. Ceux qui ne savent pas, qui pensent que tu viens de commencer à faire de la radio, tu fais de la radio depuis les années 90 aussi. Tu étais un des deux membres des Justiciers masqués, reconnu pour avoir piégé bon nombre de personnes. Est-ce que ça te manque de faire plus d'humour à la radio ou tu aimes beaucoup ce que tu fais présentement?
J'adore ce que je fais présentement. Puis en fait, ça m'empêche pas. Ben, tu sais, c'est pas la même forme d'humour. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment. Fallait faire un coup au téléphone par jour, tu sais, pas nécessairement des grandes personnalités, mais c'est un par jour. Il fallait écrire des sketchs. Ça me manque pas du tout. Parce que moi, j'aime beaucoup plus ce côté spontané en ce moment avec Maxime Martin puis Marie-Claude Savard. Tu sais, on sait de quoi on va parler, mais on se dit rien. Il y a rien qui est en dehors des ondes, là, tu sais, c'est OK, on parle de ça, puis on sait pas où ça va nous mener. Mm-hmm. Puis la chimie d'équipe fait que j'ai du plaisir comme jamais parce que c'est rare. Tu sais, des fois, tu prends en radio, tu vas prendre des personnalités, puis tu vas, OK, tu vas les mettre ensemble, puis OK, telle personne de la télé, puis tu sais, ça marche une fois sur j'ai pas de chiffre, mais une fois sur 100, je te dirais. Mm-hmm. Puis ça a cliqué tout de suite. Fait que non, j'ai beaucoup plus de fun là. Il y a des choses que tu sais, une fois de temps en temps, je me dis ah, un coup au téléphone, ce serait le fun, peut-être j'ai des noms. Mais tu sais, j'ai pas l'intention de... Ben, je dis ça, puis on sait jamais, là.
Ouais. Est-ce que ça te manque comme... Vous autres, les Justiciers masqués, aviez-vous fait de la scène un petit peu, ou c'était vraiment juste la radio?
Non, c'était vraiment la radio. Nous, ça a toujours vraiment été la radio. Puis c'était un accident de parcours, en fin de compte, parce que moi, depuis l'âge de 5 ans, mon père faisait de la radio. Mm-hmm. Fait de la radio des lignes ouvertes de sport pendant 45 ans.
Ton père, c'est Pierre Trudel, on va le dire, oui. Pour ceux qui savent pas. Oui.
Exact. Puis écoute, c'était j'ai été élevé là-dedans, mais c'était pas du tout dans le domaine. Tu sais, je connais pas le sport. Puis fait que j'ai pas bénéficié d'une plug. J'ai juste grandi là-dedans. Puis j'ai fait moi, je veux faire ça. Puis écoute, je suis rentré à l'université. Puis avec Marc-Antoine justement que je connais depuis secondaire 1. Puis on s'est dit, on va faire de la radio, on va faire de quoi. Puis c'est parti de là. On a reçu des offres. Puis moi, j'ai comme jamais arrêté. T'sais, lui, il est parti en politique, il est parti faire autre chose. Lui, il n'a jamais voulu faire ça longtemps. Finalement, ça a duré 15 ans. Fait que, écoute, c'est une belle aventure.
Hey, on va présenter, tu parles de la complicité avec ta gang à la radio. On va présenter un extrait, justement, qui témoigne de ça. Puis okay. On revient tout de suite après.
Parfait.
Le quiz à 7.
Est-ce que c'est une vraie loi ou une fausse loi? C'est ce que je vous demande. Et c'est un spécial automobile aujourd'hui.
Oh, regardons. Okay.
À San Francisco.
Non, mais je connais ça, moi, l'automobile.
Ah oui? Okay. Ah, okay. Oui. À San Francisco, il est interdit de nettoyer son véhicule avec de vieux sous-vêtements.
Ah, oh, attends une minute. Attends, wow, là. Oui. Tu utilises... je veux juste dire, c'est pas que t'es habillé en vieux sous-vêtements, c'est que tu utilises. Non,
oui, oui. Dans ta main, tu prends tes bobettes.
Au lieu du chamois.
Au lieu du chamois, là, ou ça. Là.
Ça serait pas le même infomercial. On s'entend
dessus. Mais tu sais que ça laisse des petits résidus, hein, quand tu laves ça.
Ça dépend ce que tu as fait avec tes bobettes avant.
C'est
faux. Arrête donc. Ouais, voyons donc.
Ça peut être faux. Mais c'est pas une bonne idée d'utiliser autre chose qu'un vrai chamois.
Mais c'est pas ça le but de la loi. Non. C'est pas de te prévenir. Okay,
c'est une vraie loi.
Mais pourquoi?
Écoute, je sais pas, ça a été passé par quelqu'un.
On a eu cette discussion-là il n'y a pas longtemps, celle que quand.
Moi, c'est. Écoute, Sébastien, excuse-moi, je t'appelle Sébastien comme si on se connaissait depuis 100 ans, mais ce que j'aime le plus, c'est la réaction de Marie-Claude qui dit est-ce que tu veux dire comme habillé en sous-vêtements
ou avec? Oui.
Ça, c'est magique. Mais tu sais, vous avez l'air d'avoir vraiment une belle complicité. D'ailleurs, c'est Marie-Claude puis Maxime, je pense, qui signe la préface du livre, si je ne me trompe pas.
Absolument, absolument. Puis non, écoute, c'est une complicité. Inattendu, je te dirais que c'était un remplacement d'été, tu sais, dans le fond.
Que, ouais, je me souviens.
On s'est retrouvés ensemble, puis au premier show, on a fait comme, OK, il se passe quelque chose, tu sais, puis je veux dire, c'est pas évident. Comme je disais, c'est un coup de dé. Puis Marie-Claude, dans le fond, tu sais, elle était beaucoup, elle était connue évidemment, salut, bonjour, tout ça, puis les gens connaissaient pas toute sa personnalité où elle est, et je vais dire ça parce que je l'aime, mais complètement folle. Mm-hmm. Fait que c'est... Ouais. On découvre un autre côté d'elle où elle, dans le fond, elle a eu une carrière superbe à la télé, mais là, il y a un lâcher-prise où elle va dire ce qu'elle pense en ondes, ce qu'elle veut en ondes, elle peut être plus, des fois, aller beaucoup plus loin que Max. C'est ça qui est drôle.
Pour vrai, c'est... Écoute, est-ce que tu dirais que vous avez forcé la main, mettons, d'énergie à vous donner cette case horaire-là parce que vous étiez tellement bon sur le remplacement d'été?
Écoute, je sais pas.
Parce que tu sais, on va se le dire, c'est rare là, qu'un show, un show estival va prendre la case horaire du show régulier, là, la saison d'ensuite. Là, c'est...
Oui, écoute, peut-être dans un sens, mais écoute, c'était en radio, ça bouge vite, puis tu sais jamais. Puis ouais. Nous, on s'est retrouvés là et ils nous ont proposé ça, fait qu'on on l'a pris, puis ça, là, en ce moment, ça fonctionne très, très bien, puis on a des gens qui nous suivent, puis on sent vraiment un buzz autour du show, on l'entend parler partout, fait que c'est vraiment le fun de vivre ça, là, c'est ça.
C'est quoi ton plus beau souvenir des Justiciers masqués, par exemple, à la radio? Je sais que vous avez eu vos coups d'éclat, si on peut dire. Oui. C'est quoi ton plus beau moment avec Marc-Antoine en ondes?
Écoute, je pense, sans aucun doute, c'est quand on a piégé Sarah Palin, qui était là, évidemment, c'était trois jours avant l'élection de Barack Obama en 2008. Et donc, elle était la co-litière de John McCain, son adversaire, puis ça allait déjà mal entre les deux, puis les gens la traitaient un peu de cruche, puis tout ça. Puis là, on l'appelle en tant que président français, en fait, Sarkozy à l'époque, et là, dans l'appel, elle démontre toute son ignorance de la politique, puis tout ça, et écoute, ça s'est fait un samedi matin. Le samedi après-midi, on me disait, on va vous flyer en jet à New York pour faire des entrevues aux États-Unis. On a fait 600 entrevues.
Wow!
Non, c'était hallucinant. Et là, ils nous renvoient par jet pour qu'on fasse notre show de radio l'après-midi même, le lundi. J'arrive chez nous le lundi soir, j'ouvre CNN et t'as Anderson Cooper qui compare notre coup à Britney Spears au coup à Sarah Palin en disant, trouvez-vous qu'il y en a une des deux qui est plus intelligente que l'autre? Et je suis comme, wow! Change de poste, et là, c'est un autre poste de nouvelles, c'est la même chose. C'était à tous les postes, puis là, c'est lundi soir, puis l'élection est le mardi. Et l'élection de Barack Obama est le mardi. Le New York Times fait un article le mardi même en disant que John McCain est fâché contre elle, que ça va ruiner la fin de campagne, que ça va faire gagner Obama. Puis Obama gagne de soi-même. Là, loin de moi l'idée de prendre le moindre... Mais ça a changé. Ça a fait changer d'idée trois personnes. Ça, écoute, ça a été un moment hallucinant. Moins de fun, par exemple, quand on est arrivé à l'aéroport à New York, parce que moi, j'ai beaucoup peur de l'avion. Fait que je prends un médicament pour prendre l'avion qui m'enlève l'angoisse. Et quand on arrive à l'aéroport, il y a des journalistes, tout ça, et il y a les services secrets américains qui nous attendent également. j'en parle dans le livre. Et là, on se fait amener dans une salle et interroger comment ça se fait que vous avez passé au travers des services. Puis moi, je suis là, puis je ris, puis tu sais, je m'en fous. J'ai comme pas de... Marc-Antoine, il est stressé fois mille. Il fait comme, OK, on s'en va à Guantanamo Bay. Là. C'était carrément ça. Mais heureusement, c'est pas arrivé. Mais non, ça, c'est un beau souvenir.
J'ai fait quelques recherches, puis je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que vous avez, que tu as participé ou collaboré à Safarir quand tu étais en secondaire 4?
Absolument, oui.
C'est-tu tes premiers liens avec l'humour, ça, Safarir?
Oui, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 4. Ouais. Oui, écoute, eux autres étaient à Québec. Nous, on avait fait un des premiers sites web d'humour original québécois. Tu sais, c'était des. Puis à l'époque, c'était plus des jokes bitch puis des affaires même, là, mais ils étaient tombés sur notre site en pensant, en n'ayant aucune idée de l'âge qu'on avait, puis ils trouvaient ça bon. Ils nous ont proposé, voulez-vous collaborer? Ils nous ont jamais vus, ils n'ont aucune idée du fait qu'on est en secondaire 4, là, vraiment. Puis, fait qu'on a collaboré avec eux autres un bon 2 ans, dont à un moment donné pour l'édition américaine qu'ils ont essayé de lancer, qui a pas marché, mais ça a été la première expérience. Puis, c'était bien le fun à l'époque. Écoute, Louis-José Hood a commencé à s'affairer, juste pour dire, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, s'affairer, c'était pas. Mais il y a beaucoup de monde qui ont commencé dans ce magazine-là. Et puis, écoute, ça a été ça pour nous autres. Puis,
ça a été ça pour moi aussi. J'ai commencé à m'intéresser à l'humour à cause de Safarir, tu sais.
Ah, pour vrai? OK.
En lisant le fameux magazine. Puis, ça a été mon premier contact avec, tu sais, dans ce temps-là. Moi, je suis né en 82. Fait que, tu sais, je veux dire, YouTube, on peut pas aller voir des capsules humoristiques. Fallait que tu ailles des billets de show ou tu lisais Safarir. Tu sais, fait que moi aussi, ça a été mon premier contact. Fait que c'est drôle. Tous les grands ont passé par là, on va se le dire. Bon, Est-ce que je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est quoi ton plus beau souvenir de radio avec ton père, Pierre Trudel?
Hey, mon Dieu, écoute, je me souviens, je devais avoir c'est un de mes premiers souvenirs, point dans la vie, là, mais j'avais peut-être 5 ans ou 6, je pense 5 ans, et j'étais dans le studio avec lui, puis à l'époque, il travaillait avec Mario Tremblay, c'est une ligne ouverte de sport, mais tu sais, c'était, il y avait quand même une ambiance assez, tu sais, c'était un show de chums qui parlent ensemble, fait que tu sais, moi, je voyais pas ça comme ça que m'intéressait au sport, et puis j'étais en studio à un moment donné, puis il y a une petite fille qui a appelé dans ligne ouverte, qui devait avoir mon âge, puis... Et là, mon père dit, ben, mon fils est en studio, vous pourriez peut-être vous parler. Puis là, on commence à jaser que les deux, on a la même idole, qui était Patrick Roy. Puis là, Puis là, mon père m'annonce en nombre, ben, écoute, c'est ta première blonde. Puis je me souviens de ce moment-là. Puis je me souviens d'avoir parlé en nombre à ce moment. Puis ça a été, je pense, ça a été le déclic du fait, et je veux faire ça dans la vie, parce que c'est le fun, la proximité avec les gens. Puis c'est ce que j'aime dans notre show actuel, c'est que les auditeurs font le show, tu sais. Je veux dire, on lance n'importe quel sujet. Aujourd'hui, c'était vos histoires de vaches, là, parce qu'il y avait une nouvelle actualité avec une vache. Et là, t'as des anecdotes hilarantes, puis les auditeurs sont incroyables, puis ils font vraiment le show. Puis si on n'avait pas ce contact-là, ça serait pas le même show. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup la spontanéité de ce qu'on fait là, puis de la radio en général, en fait.
Définitivement. Maintenant, j'ai écouté les histoires de vache, Maxime, qui comptait que c'est un des premiers contrats d'animateur ou d'humour, puis qu'il fallait qu'il meuble du temps en attendant que la vache chie dans un carré. Ah, oui. C'est magique.
Et le fameux festival de la vache qui chie, je sais pas si ça existe encore, c'est ça qu'on se demandait, mais en tout cas, c'était...
Je pense que ça existe encore. Ouais. Il me semble que j'ai vu, tu sais, ben, peut-être que c'est des vieilles vidéos, mais il me semble que j'ai déjà vu une vidéo là, qui parlait de ça. Mais est-ce que tu as d'autres projets d'écriture de livres? Est-ce que ça t'intéresserait d'en écrire, tu sais, tout sujet confondu? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes dans les prochaines années, prochains mois?
Ben, en fin de compte, j'ai commencé à écrire, tu sais, j'ai sorti, pas juste moi, là, mais encore là, c'est en collaboration avec Marc-Antoine. Ça a été notre dernier projet dans le fond ensemble, mais c'était sur Raymond Boulanger, le dernier vol de Raymond Boulanger, qui était le pilote de Pablo Escobar et des cartels. Moi, c'est un gars que j'ai rencontré par hasard il y a de ça 3-4 ans dans un restaurant, puis là on me dit, tu sais, c'est qui le gars à côté de toi? Non. Et le Google Raymond Boulanger, je Google et là je fais comme oh tabarnouche, ok. Et là j'ai posé des questions pendant 4 heures, puis là j'ai dit faut en faire un. Écoute, l'histoire était connue. Mais pas à ce point-là. Puis là, tu vois, ça a été le plus gros succès sur Crave.
Sur Crave, hein.
À l'automne, ça va être à Canal D au mois de janvier. Fait que là, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Tu sais, puis là, évidemment, on dirait que ça tourne tout autour de la drogue, là, mais c'est pas parce que j'ai une obsession avec ça. Mais écoute, fait que ça a été vraiment le fun. Fait que au niveau de la télé, j'ai des projets là-dessus d'écriture, puis dont avec Marie-Claude, là. Puis d'animation, tout ça. Puis écoute, j'ai tellement d'anecdotes que j'ai pas pu mettre dans le livre parce que justement, tu sais, on m'a dit 7 jours, pandémie, il y aura plus de copies d'imprimer. Fait qu'il faut que tu livres, mais j'ai encore plein de monde que j'ai pas parlé. Fait que oui, un tome 2 serait très possible. Là.
Excellent. On va commencer par lire le premier dans mon cas, mais je suis pas mal sûr que même si t'en fais un deuxième, ça va être un succès. Donc, où est-ce qu'on peut se procurer ça, Sébastien? Les éditions de l'Homme, puis j'imagine dans toutes les librairies.
Écoute, c'est dans toutes les librairies. C'est même chez Costco, Walmart, pharmacie. J'étais étonné de voir ça. Mais écoute, non, il est distribué partout. Puis c'est un livre qui se lit à l'envers, à l'endroit. C'est pas une histoire continue. C'est vraiment des anecdotes drôles et ou incroyables, dans le fond, qui partent des débuts de la radio FM des années fin 70 jusqu'à François Pérusse, son histoire qui nous dit, c'est un accident, en fait, le François Pérusse, dans le fond, il a enregistré une pub, quelqu'un a entendu ça, puis, tu sais, 35 ans plus tard, il est encore aussi hot, là. Puis avec Norman Brathwaite, à l'époque où il animait, c'était aussi assez sur le party, là. C'était à 7 heures, François devait aller au dépanneur, en face de la station, chercher de la bière, ça partait à 7 heures le matin, et là, après le show, ça allait prendre des bouteilles de vin, puis à un moment donné, François Pérusse se dit à Norman Brathwaite, OK, là, je suis plus capable, faut que je fasse mes capsules, et Norman était fâché. C'est comme c'est mon partner de bon. Fait qu'écoute, ça va dans un peu différentes époques, là, mais c'est pas les mêmes circonstances. Mais les débuts de l'humour à la radio, tu sais, RBO, tout ça, c'est aussi intéressant comment tout ça s'est passé.
Ouais, effectivement. Hey, merci beaucoup, hein, Sébastien, d'avoir accepté de venir faire le show. Puis ton livre, c'est sûr que je l'achète. Je vais le savourer. Je vais le lire, c'est certain. Merci d'avoir pris le temps. T'as été super cool. T'as accepté comme ça de venir me jaser, même si on se connaissait pas. Bonne chance avec la vente de ton livre, puis bonne chance avec l'écriture des prochains. Je suis sûr que ça va être excellent.
Ben, merci beaucoup de l'invitation. Écoute, c'était bien le fun. Et puis, surveillez ça, là. Mais,
on continue de vous écouter aussi à Ça rentre au poste
oui.
À Énergie, à tous les soirs. C'est quoi? C'est 3 à 6?
14h55, même. On veut être précis, là, ouais. 14h55 jusqu'à 6. Et puis, c'est un show où on a bien du fun. Fait que, venez l'écouter.
Cool. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été
merci
là.
Toi. Merci
à la prochaine.
Bye. Salut.
Sébastien Trudel, je vais enlever son nom ici, voilà, voilà, merci, c'est vraiment cool, un gars de radio comme ça, et c'est certain que ce livre-là, ça doit être un bijou, j'ai hâte de me le procurer pour pouvoir lire. On enchaîne tout de suite avec mon prochain invité, vous le connaissez sûrement, soit par son travail de comédien ou son travail d'humoriste, mais c'est un gars qui est présent dans un petit peu partout dans la sphère médiatique ou je sais pas comment dire ça. On l'amène tout de suite avec nous autres. Martin Vachon, comment ça va, Martin?
Ça va très bien. Toi, mon gars?
Parce que c'est une présentation correcte, je dirais. Là,
C'était
parfait. Bon,
excellent. Est-ce que tu m'entends bien?
Je t'entends super bien. C'est la première fois que je te vois avec un micro, d'ailleurs.
Je l'ai reçu à 16h55.
Donc, c'est un test.
Non, mais j'avais fait un test avant, mais là, on n'avait pas fait de test ensemble, nous, avant. Fait que tu m'entends bien?
C'est génial. Pour vrai, le son est bon. C'est quoi? C'est un Blue Yeti, ça?
Exactement. Tu es un connaisseur.
Connaisseur de micro correct. Le mien, il est pas mal moins bon que le tien, en fait.
Tu l'as pas reçu aujourd'hui, c'est pour ça?
Non. Effectivement, il y a du métier, comme on dit. Hey, merci d'être là, Martin. Ça fait une couple de fois que je voulais t'avoir sur le show. Je voulais t'avoir sur mon premier show qui s'appelait Live au chalet. Ça donnait pas tout ça. Puis là, ça donne. Fait que je suis vraiment content de t'avoir. On doit dire que pendant le confinement, tu t'es trouvé une idée originale, si on veut, un show de game board, là, de jeux de société en ligne avec des invités, des humoristes, des personnalités connues. Parle-nous-en donc un petit peu là, pour ceux qui ne connaissent pas le concept.
Oui, mais c'est ça, comme tu as dit, dans le premier confinement, dans le fond, moi, j'ai créé ce qui s'appelle la guerre des clowns. Puis au début, c'était supposé être juste une fois. Tu sais, au début du confinement, là, les premiers jours, là, tous les humoristes au Québec essayaient de trouver des lives, faisaient des lives. Okay, on va faire de quoi? On va se tenir occupé, tu sais.
Moi, mon show est né comme ça, d'ailleurs.
Ah ouais, mais souvent. Okay. regarde, puis il est encore en vie, là, c'est fou. Là. Quand c'est une bonne idée, c'est signe que tu peux continuer. Et moi, je viens de voir mes cheveux, c'est n'importe quoi. Moi, je suis en train d'endormir mon gars. Je pense que je suis en train de m'endormir, moi aussi.
Attends, on regarde.
OK, merci. Hey, je veux faire une parenthèse. Tu sais, bon, détail pour les gens à la maison qui est peut-être moins intéressant, mais... Moi, j'étais supposé être l'entrevue de 20h. Finalement, tu m'as déplacé à 20h25 et je vais te dire une chance.
Ah ouais.
Parce qu'à 20h05 jusqu'à 10, mon plus vieux, moi j'ai deux enfants, 4 ans et 1 an et demi. Moi, je suis en train d'endormir le plus jeune et le plus vieux, c'est coincé le doigt dans le cadre de porte. Ah. Mais tu sais, un enfant, qu'est-ce que tu faisais de mettre ton doigt là? Il n'est plus capable, tu sais, la porte, elle ouvre. Mais là, entre la peinture qu'on appelle, entre la peinture et le mur, son doigt est coincé là, mais là, il est coincé, ma blonde capote, on était obligé de mettre du savon, puis je me disais, hey, une chance qu'on n'était pas live, sinon tout le monde aurait entendu mon gars hurler, qu'est-ce qui se passe, puis moi, le gars qui est zéro manuel, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, c'est ma blonde qui a mis du savon, moi, j'étais là, j'essayais de forcer un peu le doigt à mon gars pour le faire sortir.
Pauvre petit, est-ce correct, son doigt?
Oui, il est correct. Okay. En train de lire la patte patrouille, puis il est bien correct.
Ah, ben écoute, c'est ça chez nous aussi. Hein. Moi, j'en ai un de 13 ans, mais un aussi de 21 mois. Donc,
OK, oh boy!
Ouais, je sais.
Courage, on s'en sort. Merci. Donc, pour revenir à la guerre des clowns, j'ai eu l'idée, quand tout le monde avait des lives, de qu'est-ce que je faisais dans les bars à l'époque? Je jouais à la guerre des clans. Au retour dans le track, au lieu de faire du crowd work, moi, je prenais deux personnes du public, puis je jouais un jeu. Ça marchait vraiment beaucoup. Je me dis, crème, on va faire ça avec des humoristes, puis on va avoir du fun. Puis là, j'avais comme 8 humoristes, Pierre Hébert, P.A. Méthode, plein de monde. Et là, ça a tellement marché. Tu sais, j'étais à Salut Bonjour le matin. Là, il y avait genre 3000 comptes Facebook qui regardaient live au début. Puis en plus, ça n'a pas marché. Moi, je faisais ça avec mon ancien ordinateur. Je ne suis pas capable de me connecter. C'est comme trop gros. Là, j'étais à Salut Bonjour le matin. Je panique. Puis en plus, anecdote, juste de même, j'avais fait le fameux gag que tout le monde a fait. J'étais en bobette. J'ai mis un talk show en bobette, mais là, moi, je panique dans la maison, mais j'étais en bobette. C'était ridicule. Ça pour dire que j'en ai fait un, finalement, plusieurs. Ça a duré. La semaine passée, j'ai fait mon 20e semaine. Fait que c'est un chaque vendredi soir, 20h30, sur ma page Facebook, j'invite des amis humoristes à jouer à des jeux de société en Facebook Live, puis on prend un verre, puis on s'amuse. Puis tu vois, là, au début, là, j'avais comme 5-6 jeux, puis là, je suis rendu avec, j'en ai même à terre, là. C'est ouais, très le fun.
Écoute, on en écoute un extrait du show de la semaine
passée.
Voilà.
Durant toute la soirée, je vais souvent venir vous voir. Donc, voilà, on est seté, tout fonctionne, je suis vraiment content. On va s'amuser.
Qu'on voit qu'il y a eu de la fraude à côté du monde qui envoyait du spam. I think you appear in this video. Ça me fait très rire.
Oh que oui, l'hostie de jeu des humoristes. On va essayer de faire zoomer ma caméra. Ça va-tu marcher? Oui, ça a marché. Alors, regardez ça. Ça, le gang, c'est une primeur. Ce jeu-là n'est même pas encore sur les tablettes. Il ne se vend même pas encore. Il est en précommande. Et nous, on l'a en exclusivité, en scoop, pour le...
Donc, voilà, ça, c'est pas le jeu, mais c'est quand même toi qui parle d'un jeu, une exclusivité. Donc, je trouvais ça cool de le montrer, mais
ça fait longtemps que tu n'as pas mis un extrait.
Non, mais j'avais sorti l'extrait où ce que Jean-Thomas Jobin, avec son fameux personnage Pince en rire, t'a dit que t'es pas gentil avec eux autres. Je l'ai enlevé, j'ai dit non, je vais mettre un extrait juste de Martin, tu sais, mais ça a évolué depuis le début du premier show, là. Comme hier, je t'ai parlé, puis je t'ai dit, bon, sur quelle plateforme t'es rendu, parce que le visuel du show est rendu vraiment cool.
Ben ça, c'est grâce à la gang de Diff Live, on s'est associé pour le retour de la guerre des clowns. Je me disais, si je reviens, j'aimerais ça revenir vraiment avec une nouvelle mouture, puis essayer de me rapprocher de plus de quelque chose qui pourrait aller à la télévision. Fait que là, avec Diff Live, on est capable maintenant de justement d'isoler, faire des changements de plan, juste toi solo, après ça, on est deux, après ça, on est juste toi, après ça, on retombe à 5 ou à 6. Fait que ça nous permet vraiment plus de possibilités. Ils sont écœurants, ils travaillent tellement fort, ils sont tellement talentueux. Et moi, avant, comme toi sûrement, je gérais tout. Live, la connexion, l'invité, les commentaires. Et là, OK, puis là, en plus, il fallait que je gère un jeu. Des fois, poser des questions. OK, je suis rendu où dans mes règlements? Ça marche pas, ça. Puis, hey, c'était beaucoup trop d'ouvrage. Ma blonde était tannée que je demande de l'aide. Fait que là, j'ai des pros avec moi. T'sais.
Elle était prise à régler des problèmes de doigts d'impanture.
C'est ça, exactement.
Pour tout faire. Là,
elle était même régisseuse. À un moment donné, j'ai fait une édition piment fort. Et la gang de Gladius me passait les chapeaux de Normand Brathwaite.
C'est vrai, là?
Oui, c'est les vrais comédiens qu'ils avaient, dans le fond, dans l'entrepôt. Fait que là, ils me disent, t'es vu-tu? Je dis, j'ai vu. Je fais aller-retour Québec pour aller chercher juste des chapeaux. Mon char est plein de chapeaux. Mais là, ma blonde était accessoiriste. Fait que pendant le show, je partais un jingle pour on s'en va à tadana. Fait que là, on me changeait de chapeau, on me mettait un autre chapeau. J'étais comme ah! Mais ça a été vraiment une expérience incroyable.
C'est ça, les plateformes sont cool. Tu sais, moi, j'utilise StreamYard, il y en a plein d'autres, Restream, Zoom, tout ça. Les plateformes sont vraiment cool, mais quand tu te mets à tout faire, comme moi, là, je veux un jingle au début, je suis en train de peaufiner le show, mais il faut toute sa part d'un clic. Là. Tu sais, j'essaye de m'arranger pour que ça parte tout d'un clic.
Mais... Exactement. Mais d'ailleurs, StreamYard, c'est vraiment le plus simple pour tout souhaiter. Ouais. Un forfait clé en main, là, quand j'ai trouvé StreamYard, ça me sauvait pas mal.
L'interface est cool. Tu as vraiment l'impression de faire un broadcast qui a du bon sens, avec les commentaires à l'écran et tout ça. Là, c'est ça que j'utilise. Même là, j'essaye un background pour la première fois à soir, puis je suis vraiment content. Là,
ouais, ça marche super bien.
Beau, puis,
c'est chez vous, ça?
Non, ça, c'est. Moi, non, mais pour vrai, là, j'ai pogné une image, puis après ça, je me suis dit, shit, j'ai pas checké si j'avais les droits de l'utiliser, mais non, on la voit partiellement, là. Tu sais.
Exact. Fait que, ça a l'air d'un catalogue IKEA, genre.
Ouais, c'est ça. Si quelqu'un vient se plaindre de mon image, tout ça, faut juste que je recrée ça dans le salon chez nous, puis que je dis, c'est chez nous. Ouais.
Ben, regarde, je regarde en arrière, ça a l'air beau, fait que ça me dérangerait pas d'être chez nous, ça.
C'est ça, tu sais. Fait que, faudrait juste me coûter un peu d'argent à tout redécorer, ouais. Mais tu sais, en tout cas. C'est quoi le moment le plus cocasse que tu as eu de toutes tes guerres des clowns et des moments qui sont arrivés?
Hey, j'en ai eu plusieurs. Ouais, je vais t'en dire deux, trois, là. Un qui m'a vraiment fait rire. Est-ce que tu connais le loup-garou?
Ouais.
Loup-garou, c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme tu as des personnages de loup-garou et de villageois. Puis on est 8-9 joueurs, puis là, il faut que tu trouves qui est les loup-garous, puis t'élimines quelqu'un. Mais là, il y a un jeu, une option qui s'appelle la peste noire. C'est qu'il n'y a pas de loup-garou. Tout le monde est des villageois, mais il y a quand même un qui meurt à chaque nuit. Mais personne ne le sait, ça. Fait que le monde s'accuse. Mais là, quand on tombe à 3 joueurs, là, ils sont comme, OK, un entre nous 3, c'est sûr que c'est un loup-garou. Fait que là, le monde défend leur vie, mais il n'y en a pas de loup-garou. Et je te jure, allez voir, c'est la 2e édition de loup-garou. après une heure et demie. C'est là que c'est Olivier Martineau avec Jérémy Larouche et Charles Beauchesne. Mais Olivier Martineau, là, je pleure de rire parce qu'il s'ostine. Beauchesne, je m'en vais chez vous. Je m'en vais tuer pour vrai si tu votes pour moi. Et je te jure, là, tous les autres joueurs sont en train de pleurer. Ça s'est rendu jusqu'au créateur de Loup-Garou en France, cette vidéo.
Ah ouais?
C'était malade. J'ai eu, quand j'ai joué au Tricheur, j'avais un gros cas, j'avais Mariana, j'avais Laurent Paquin, Dom Pack, Maxime Martin. J'ai réussi à avoir en surprise Guy Jodoin.
Ah ouais, oui, je me souviens.
Il voulait pas, je veux pas participer, mais je peux-tu faire de quoi? Ben oui. Il était une question. Il est arrivé déguisé en Père Noël. C'était supposé durer genre 2 minutes son segment. Ça a duré 17 minutes. Lui, c'est un improvisateur, il part, il fait un striptease, ça finit plus. Je fais comme, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était tellement drôle. Il parlait, il posait des questions, je te jure. Puis il gossait tellement les invités. Tu voyais les invités, commencent. C'est il est talent. Hey, il gosse, c'est qui ça? Hey, ben, quand il a fait le reveal que c'était Guy Jodoin, oh, man, la face des humoristes, la réaction valait 1000$. Ça aussi, je l'ai isolé. Vous pouvez aller voir dans la section vidéo sur ma page Facebook. Man, c'était incroyable. C'était des moments de même. Là. Il y a eu quoi? Il y a eu tellement des... Oh, il y a eu des moments où j'ai eu peur. Tu sais c'est quoi? Faire un live. Gérer la connexion, puis la connexion de tes invités. Ça va-tu marcher? Il perd, lui, il lag.
On l'entend mal.
On a fait un meurtre et mystère. Tu sais, une fausse bonne idée. Là. Alors, on va essayer de quoi le monde me demandait que je fasse ça. Et là, la connexion de Dominique Massy ne marche pas. Mais là, il part, il revient à une place, il part. Si on fait un jeu de quiz... Un de mes invités part. Ben, c'est pas grave, on continue entre nous autres. Mais là, un meurtre et mystère, j'étais comme...
Personnage.
C'est-tu le meurtrier? On peut pas continuer si c'est... Ben, finalement, c'était... Ah, le meurtrier, ben, on n'a pas d'infos. Fait que là, je paniquais. Là, il y avait comme 2000 comptes Facebook qui regardent et comme non. Fait que, ouais. Fait que c'était des très beaux moments, honnêtement. Puis tu sais, on prend des verres, on s'amuse, on voit les humoristes. Vraiment, pour la meilleure manière que je peux décrire ça, c'est les gens sont invités à une soirée d'humoristes qui s'amusent autour d'une table à jouer à des jeux de société, prendre un verre et dire des niaiseries. C'est tellement le fun. Là.
Comme tu pourrais le faire dans une loge, tu sais, avant
c'est
un show.
Exactement ça. Exactement, tu as raison.
Exactement ce que je reconnais, tu sais, quand je l'écoute personnellement, c'est ça. C'est de dire, regarde. Puis, tu sais, on s'est jamais vu en show, là, ça n'a pas donné, mais de toute façon, tu ne fais pas tant de bord que ça non plus, j'imagine. Là, tu sais,
il faut que je rode pour des galas, des choses comme ça. Un peu avant Juste pour rire, je n'avais refait pas mal, mais sinon, je vais recommencer parce que là, j'ai créé du nouveau matériel.
C'est ça, moi, je suis le gars le plus pas entertaining, mais c'est moi qui parle à tout le monde là, dans la loge. Moi, je fais ça à temps partiel. Je ne suis pas un humoriste à temps plein. Moi, je travaille quand même, je travaille au gouvernement comme agent de communication. Okay. Mais je suis un passionné d'humour, je fais mon podcast, je fais des spectacles un peu partout, surtout en Outaouais puis dans l'Est ontarien. Mais quand je vais en show puis que je rencontre du monde la première fois, je suis le plus fatigant dans une loge pour quelqu'un qui veut revoir son texte dans sa tête avant d'embarquer sur scène. Ça n'arrivera pas si je suis là parce que moi je suis jase avec tout le monde. Puis,
allô? Ouais, ben, si cette personne-là veut repenser à son texte, elle a juste aller un peu ailleurs puis aller sortir dehors, va faire une italienne. La loge, c'est quand même une place pour discuter entre amis. Là,
c'est ça. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je retrouve. T'sais, c'est un peu l'équivalent. Le monde, ils vont jouer dans une ligue de garage de hockey puis ils vont se retrouver en boys puis ils vont jaser dans la chambre de hockey. Ouais. Ben, moi, c'est l'humour, ça, pour moi. Ouais. Je fais des choses d'humour puis je jase avec la gang puis j'ai du fun puis je rencontre du nouveau monde. Puis...
Mais ça sent moins le jackstrap.
Ben, des fois...
Il y a une humoriste.
On ne dira pas de nom, mais on le sait. Est-ce que le concept de la guerre des clowns pourrait se transporter sur un show de télé dans les prochains mois?
Je vais te dire, c'est ça que j'essaie très fort en ce moment. On essaie de le pousser à la télé parce que je considère que c'est le show parfait. Ça ne coûte rien à faire. Tu nous mets à une table à 2 mètres de distance à la table, une grosse table en bois avec les caméras, ça peut marcher. Au pire, qu'on ait plusieurs mêmes jeux pour les mêmes cartes. On s'amuse, je pense que ce serait facile, ce serait le fun. On le voit. Hey, en tout, là, j'ai calculé, là, j'ai environ 800 000 views sur des vidéos de 1h45, 2h30.
C'est fou, c'est ça.
C'est énorme là, pour des vidéos de 2 heures. Le monde reste pendant 2 heures, puis ils prennent un verre de vin le soir chez eux, puis ils écoutent ça. C'est, tu sais, fait que je pense qu'une formule, disons, 1 heure à la télévision, couper avec du montage, tu gardes les meilleurs moments. Je pense que ça peut très bien se faire. Fait qu'on est en train d'essayer de proposer ça là. Puis si ça marche pas, je pense que je suis en train d'évaluer peut-être si ça marche pas la télé, d'arrêter de faire live, mais de le faire avec montage, puis que je puisse en faire dans journée plusieurs, puis après ça, pour essayer, parce que sinon, c'est de la job, le live, là, c'est tellement...
Ouais, puis tu sais, t'es pas obligé d'être live pour que ce soit bon non plus, puis t'es pas obligé de faire une tonne de montage non plus pour que ce soit bon. Fait que tu sais, t'as le meilleur des mondes, je pense, si tu le préenregistres, puis que tu fais juste couper les longueurs, mettons, là, tu sais.
Je pense que je sens qu'il s'est tellement passé de quoi avec le confinement, quand ce show-là est né, et les gens qui aiment... Tu sais, encore vendredi, j'avais au-dessus de 1500 comptes qui regardent live, puis je sais qu'il y en... Puis ils l'écrivent. Je l'écoute en fin de semaine, après, je l'écoute plus live. Il y a une communauté qui s'est comme créée, je trouve, autour de mes lives, que des gens, ils se disent bonjour dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens tout seuls, des fois, qui vont regarder ça. Il y en a qui vont le regarder en couple. Ça a fait comme du bien à des gens, ce show-là, puis ça me fait du bien à moi, parce que, tu le sais, la COVID, mon gars, ça a tellement... notre métier était comme en suspens, puis là, on a tous des artistes, on est tous des angoissés, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais? Puis pogner ce projet-là me fait... Je focussais là-dessus, je travaillais extrêmement fort là-dessus à chaque semaine, fait que ça m'a comme sauvé un peu d'une dépression, peut-être, que j'aurais pu avoir pendant le confinement. Fait que, tu sais, j'ai la misère à lâcher le live, mais... En même temps, le live est tellement stressant pour rien. Quand on pourrait, s'il y a une petite connexion qui chie, ben on va recommencer, on va le prendre, on va avoir du montage, c'est pas grave, ça serait tellement pas stressant.
Exactement. Ben, au moins avec Diff Live, tu t'es trouvé une plateforme où est-ce que tu t'es enlevé un petit peu cette pression-là quand même. Si ça chie, whatever, ils vont être en mesure de, je sais pas, de rendre le visuel quand même intéressant, puis de revenir peut-être. Fait que tu t'enlèves cette pression de. Parce que tu sais, veux pas, StreamYard, c'est super formidable puis tout ça, mais tu es limité quand même dans ce que tu peux enlever de l'écran, puis mettre à l'écran, puis tu sais, ramener des affaires, puis tout ça, tu sais, t'es quand même limité, puis il faut que tu y ailles vite, puis tout ça. Là,
exactement. T'es tout seul, puis tu sais.
Ouais. Est-ce que tu as mis en veilleuse ta carrière de comédien ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse encore?
Non, ça m'intéresse encore. J'ai même, tu sais, des fois, c'est des questions de timing. J'ai venais de passer. T'sais. J'ai passé vraiment proche d'avoir deux gros rôles dans les derniers 2-3 mois. C'est comme, ah, des grosses prods. Puis là, tes voix passer sur Facebook, tu fais comme, tu as passé si proche. Et j'ai tellement mis d'efforts sur ma carrière d'humoriste pour lancer mon premier one-man show, faire la tournée. Après ça, je suis allé un peu au théâtre aussi avec Revue et Corrigé. La pandémie a fait en sorte qu'il y a des contrats que j'ai perdus qui étaient comme... qui sont stand-by, dans le fond, pour l'instant. Fait qu'on sont pas perdus encore, sont juste repoussés. J'aime tellement l'humour. Moi, c'est une passion, c'est ça que j'aime le plus. J'aime être comédien, j'aime être animateur, j'aime être humoriste, mais le moment que je suis sur une scène à faire des blagues, c'est le moment que je suis le plus heureux dans une vie. Donc, c'est ça, je mets plus d'efforts là-dedans. J'ai eu des belles auditions, j'ai eu des belles affaires. Je suis encore présent comme comédien, mais c'est sûr que je mets plus d'efforts pour faire genre de l'humour animé à la télé, mes chroniques, salut, bonjour, tu sais, la guerre des clowns. Fait que j'ai des beaux projets qui s'en viennent, peut-être plus pour la scène, point de vue comédien. Mais point de vue télé, j'ai pas rien pour l'instant, mais je suis zéro inquiet. Puis moi, je suis pas mal, vu que je suis multidisciplinaire, je regarde ce qui se passe pendant qu'est-ce qui arrive devant moi, puis je travaille là-dedans. Puis tant que je manque pas de travail.
Ça, mais moi, je t'ai découvert avant de te découvrir comme humoriste, je t'ai découvert dans Mémoire vive, ma blonde. Oh, yeah. Ça, puis moi, j'étais un fan de Formule 1, puis tu étais pilote automobile. Là, oui. Bon, je t'ai jamais vu piloter un char dans série.
Une scène, c'est pas moi qui chauffais. Puis c'était un char de NASCAR et il y a juste une scène, j'ai dû sortir de la voiture, faire semblant que c'était moi qui venais de faire le lap. Mais man, le banc, c'était moulé pour un gars de 5 pieds 4. Et moi, je suis 6 pieds 2, 6 pieds 3. J'étais tout coincé dans le char. Puis l'action, oh mon Dieu, je veux sortir. Fait que, ouais j'ai fait une scène, ouais.
C'était dit que tu étais pilote automobile.
Et c'est ouais, et c'était aussi au début Bruce Martin Murphy. Fait que j'étais supposé être comme un pilote de course, peut-être un peu bilingue. Mon Dieu, ils m'ont donné une scène que je parlais au téléphone en anglais. En fait, ouais, non, j'ai un gros accent. Tu vas être très québécois. Okay.
Ah, c'est bon, ça. Ça l'évolue. C'est le fun de voir ça, que les personnages de télé sont nécessairement tous coulés dans le béton à partir de day one. Là,
non, des fois, ils font comme « Ah, ça marche moins quand... » Ou T'sais, ou quand tu te rends compte que... Tu sais, moi, à l'époque, j'avais pas d'enfant quand j'ai commencé à faire Bruce les premières années. Et je me souviendrai toujours, il y a une madame à Noël dans le centre d'achat qui est venue me voir dans les premières années de mémoire vive. Elle me dit, « Vous, vous avez pas d'enfant, hein? Pourquoi vous dites ça? Ça paraît de la manière que vous les tenez. » Je vais dire, « OK. » Tu sais, que je tenais un bébé genre de 6 mois dans les scènes, je le tenais, mais d'une manière que ça a l'air que c'était pas un vrai père, là, tu sais.
Après ça, t'as-tu regardé ces scènes-là, voir si t'étais, aujourd'hui t'étais amélioré? Ou...
Non, mais j'ai fait confiance. Je me souviens de t'es pas à l'aise avec les enfants, c'est pas le mien, OK? Puis, hey, c'était tough tourner avec des enfants au début. Et là, il y a des scènes, par exemple, j'aimerais ça refaire. Je me rappelle une scène de mémoire vive, ma fille avait été kidnappée. Et là, je suis en chambre d'hôtel à Los Angeles, qui était genre repentigné. Et là, je pétais ma coche dans la chambre d'hôtel, mais là, j'aurais aimé... Tu sais, t'es correct ce que j'ai fait, mais j'avais pas d'enfant. Je pouvais pas... Je pouvais imaginer c'était quoi. Oh, là. Est-ce que j'aimerais ça jouer cette scène-là avec deux enfants, voir comment j'aurais exploré ces émotions-là, là, t'sais.
Je comprends donc. Hey, t'as parlé de... Bon, on a parlé de plein de choses, mais t'as effleuré « Salut, bonjour ».
Oui.
Petit extrait encore. Bouge pas, je te montre ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est moitié entrevue, moitié extrait.
Ah, mais t'es parfait, on aime ça.
Un petit peu. Avec Gino.
Oh,
ouais.
Oh, ouais.
On remet le costume de magie. Et c'est le tien en plus.
Oui, moi, je suis un gros fan de magie.
Ouais.
T'es un gros fan de Harry Potter. Oui, je m'assume. Bon, c'est sûr que ce matin, au Tim Hortons, avant de naître, à vient de même, je connais un peu moins. Mais Martin, la bonne affaire, c'est que toi, tu as 2 enfants. Alors, oui. Cette semaine, pour devenir magicien, tu t'es amusé à tester tes trucs avec les enfants.
Exactement. Je veux dire, lui, de 1 an et demi, il était très facile à berner. Ça s'est passé comme vraiment bon.
Oui, j'imagine, hein?
Fait que, alors, ouais,
la magie, parce qu'à cause d'Harry Potter, j'imagine.
Je suis un fan d'Harry Potter, tu sais. Je suis pas le seul hein, qui aime Harry Potter. Sais-tu combien de livres J.K. Rowling a vendu à travers le monde?
Des dizaines de millions?
D'un chiffre, dizaine?
100 millions.
450 millions. Hein? Elle aussi a fait de la magie, elle a fait apparaître de l'argent dans son compte.
Là, c'est ça. Dans le fond, c'est-tu la guerre des clowns qui t'a amené à avoir la chronique avec Gino? Parce que tu présentes quand même des jeux, tu présentes...
Ouais, je pense que ça l'a aidé parce que pendant le confinement, justement, avec la guerre des clowns, je suis allé pour mon One Man Show, je suis allé une couple de fois, mais je suis allé quand même 2 fois dans 1 mois et demi parler de la guerre des clowns. Puis ça avait été des super belles entrevues, puis on avait eu du fun, puis Gino chantait qu'il m'aimait bien. Et quand ils ont approché ma boîte, ils cherchaient des artistes de ma boîte aussi pour les collaborateurs. Quand ma gérante a dit « Mais Martin, ça vous tenterait pas? » Elle a fait comme « Hein? » Ils ont comme flashé, en fait « Ben, laisse-nous en parler à l'équipe. » Puis ils ont fait « Ben oui. » Tu sais, des fois, tu as besoin d'une tape dans le dos, dans le milieu. Puis ça a fait comme « Ils n'avaient pas pensé à moi à la base, mais ils ont repensé à mes entrevues. » Ils ont fait « Ouais, ça pourrait très bien marcher, Martin. » Fait qu'ils m'ont accepté. Puis là, j'ai du fun. J'en ai fait 3, là. Puis c'est tellement le fun à faire. C'est stressant. Hey, la magie, là. Oh. Moi, il faut apprendre des affaires. C'est le temps de. Là, c'est le temps de Martin Vachon. Tu apprends quelque chose, tu viens parler de quelque chose que tu as appris. Et là, cette semaine, c'était de la magie. Puis j'apprenais à faire de la micro-magie, ça allait bien. Mais là, quand faut que tu le fasses live, à salut, bonjour le matin, quand tu expliques le truc, là, je réalise comme oh, shake, moi. Il fallait que je mette un petit élastique sur le verre. Je suis comme oh, j'ai de tremble, ça paraît là à la télé. Là. Fait que c'était très stressant. J'ai fait une grosse erreur de français live à la télé.
Ouais.
Oh, au début, ce que vous faites, j'écoutais même pas, je suis comme, ce que vous faisiez, là, Gino, il dit, faites.
Ouais, c'est ça.
Hey, là, je suis stressé, là.
Ouais. Je vais reprendre par Gino, je suis là, tu sais.
C'était tellement gros comme erreur, là, c'était... il fallait que je fasse ça.
Ouais, j'ai écouté aussi les chroniques de Jean-Michel Anctil, là, où est-ce que c'est juste, écoute, des pouffages de rire, ouais. De rire avec Gino, là. C'est comme, c'est n'importe quoi. Là. Mais ça, tu testes des espèces d'expériences, puis le truc avec le melon d'eau, là, c'était comme un moment
d'entrée. Le rire de Jean-Michel est tellement communicatif.
C'est fou, ben raide. Est-ce que tu sais, moi je te le dis, là, t'es probablement l'humoriste que j'aime le plus en ce moment au Québec, parce que j'ai vu. Non, sérieusement, puis c'est pas parce que j'étais sur le show, mais je l'ai dit souvent à Frank Grenier, qui est un de tes amis aussi,
oui.
Puis on a comme ami en commun, je trouve que tu as un style d'humour qui peut plaire à tout le monde, tu sais, plus général, public, plus général, public qui veut un petit peu de mordant de temps en temps, tu sais, puis t'es tellement un bon communicateur, sérieusement, je trouve que t'es probablement le gars que j'irai voir tout de suite en show. Là,
mais t'es vraiment gentil, c'est vraiment fin.
Je pense Merci que beaucoup. T'as une voix sympathique qui fait que, d'après moi, tu pourrais avoir ta propre émission de télé, puis ça marcherait, c'est sûr.
Ben, on se croise les doigts. On aimerait ça avec la guerre des clowns, que ça fonctionne. Sinon, ça va être une autre chose, mais on dirait que c'est ça. Mais j'essaie d'être le plus moi-même possible. Tu sais, puis je suis un grand niaiseux sympathique dans la vie. Puis, tu sais, sur scène, j'essaie de faire ça. Puis des fois, les gens, tu sais, ils aiment ça, puis ils se reconnaissent là-dedans. Puis avec ma face, puis la manière que je parle, on dirait que je peux aller, tu sais, un peu crunchy. Je peux aller loin, mais ça passe bien. C'est pas vulgaire parce que moi, on me le permet.
Tu sais, tu m'as jamais vu sur scène, mais je suis un peu comme ça aussi. Je suis assez grand public. Mais je vais dire des affaires des fois avec un sourire un peu niais qui fait que ça passe super bien. Tu sais, puis c'est
avec une bouille sympathique, ça marche bien. T'sais.
Ça marche super bien. Mais écoute, si tu fais une édition un peu moins connue, les humoristes un peu moins connus de la guerre des clowns, je suis présent, c'est certain, j'adore ça. Puis,
mais j'ai ça en tête. Je veux faire un plus un peu sans vouloir diminuer parce que j'ai haïssé ça quand j'étais dans la relève de dire relève, mais c'est plus à découvrir, les humoristes à découvrir. Je veux faire une édition auteur. Je veux faire plusieurs éditions. Je veux continuer pendant un bout. Fait que ça amène l'invitation. On va être lancé. Ça va me faire plaisir de te recevoir.
D'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois sur le show Yann Bilodeau, tu connais peut-être.
Oui, ben oui.
Puis qui va travailler sur le bye-bye. On va jaser de plein d'affaires. On va parler du bye-bye, mais on va parler de baseball parce que c'est un fan fini de sport puis des Dodgers. Fait qu'on va en jaser la semaine prochaine.
Puis tu diras, Martin Vachon, on va le péter à NHL. Il y a comme une rivalité qui dit je te battrai. Oh là, je vais te battre, moi. Fait qu'on n'a jamais joué contre, mais on aurait pu dire c'est moi qui vais te battre.
Il y avait un groupe, vous autres, avec Étienne Dano, Frank Grenier, toi.
C'est le tournoi des clowns. Tu sais, moi, tu vois, je suis bien thématique. Là, ça partit, le tournoi des clowns, ça fait comme 5-6 ans qu'on fait ça dans ma cave à chaque temps des fêtes. On est 10 humoristes, tournoi NHL, 4 télés. Il y a John Lord, un humoriste qui a un document Excel. On rentre toutes les statistiques, toutes. Et le tiebreaker, s'il y a une égalité au point, c'est pas le nombre de buts pour contre, c'est les hits, les mises en échec. Ça, c'est la clause Martin Mallette parce qu'il n'était pas assez bon puis il fait juste frapper du monde. Fait que pour lui donner une chance de ne pas terminer dernier, il y avait la clause les mises en échec, c'est le premier bris d'égalité.
Fait que ça se pète de partout. Ah,
quand tu sais, c'est 4 à 1, là, tu vas juste te ramasser, je n'ai plus de chance. Okay.
Ah, c'est cool ça. Non, mais je le suis des fois, là, tu sais, je vous vois sur les médias sociaux, puis je vais inviter sûrement Étienne aussi à venir sur le show. Là, fait que c'est un gars super intéressant.
Vraiment.
Merci beaucoup, Martin.
Merci à toi.
Pour poursuivre, si tu veux plugger la guerre des clowns et tes projets, là, go ahead.
Premièrement, je tiens à te remercier. Puis merci beaucoup de m'avoir invité. Et oui, la guerre des clowns, c'est ce vendredi, 20h30, à tous les vendredis, sur ma page Facebook, Martin Vachon. Sinon, j'ai Facebook, Instagram, YouPorn, comme d'habitude, comme tout le monde.
Nice. Merci d'avoir été là, Martin.
Merci à toi de l'invitation.
Bonjour, salut.
Ciao.
Merci à Martin Vachon. Merci à tous mes invités ce soir. J'ai vraiment adoré la formule. Je ne sais pas. J'espère que vous allez pouvoir me laisser des commentaires. Laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous avez aimé ça, les entrevues un à un comme ça? Est-ce que vous préférez que je reçois du monde en même temps, tout ça, puis qu'on parle de sujets différents? Gênez-vous pas. Envoyez-moi des commentaires. Vraiment, ça serait cool. Monsieur Lauzon qui est encore connecté avec moi, là, donc je viens de voir ça. Il a été tout le show... Il a été tout le show présent. J'espère que vous avez aimé. On a reçu, comme j'ai dit, M. Stéphane Lauzon, qui est député du comté de la circonscription d'Argenteuil, petite nation au niveau fédéral. On a reçu Sébastien Trudel, auteur du livre « À micro fermé » et animateur à « Ça rentre au poste sur énergie ». Donc, super intéressant de lui parler de son livre, ses projets futurs, etc. Martin Vachon, qui est incroyable, qui est tellement sympathique. Son projet de la guerre des clowns à tous les vendredis soirs, 20h30, sur sa page Martin Vachon. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment drôle. Le monde joue à des jeux de société, mais tu sais, c'est des humoristes. Là. Fait que c'est un show d'humour en tant que tel. C'est vraiment cool. Je vous invite à écouter ça. Et puis, ben, pour ma part, je vais être. On est là mardi prochain, 19h30 encore, pour En Zone Neutre. Laissez-moi des commentaires, comme je vous dis. Partagez-le, la vidéo, si vous avez aimé ça, puis tout ça. Partagez-le à tout le monde. Et puis, c'était vraiment cool. Merci, merci d'avoir été là. Et on finit ça avec une petite toune pour terminer. Et puis, voilà. Merci d'avoir été là. Puis, à la semaine prochaine.